l'émission du cirque du collectif d'information et de recherche cannabique, comme tous les lundis soirs. Et donc, nous allons vous le présenter en binôme, comme chaque fois. On va vous faire l'actualité de ce qui se passe. Voilà. On va revenir un tout petit peu sur la contraventionnalisation, mais pas trop. On en a parlé toute la semaine dernière, donc on va parler un petit peu d'autre chose. On va revenir à nos fameuses brèves. Avec des petites brèves, voilà. On va revenir, voilà, des élus de la Creuse qui seraient
un élu.
Ouais. Après, on va voir si ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée de tous ces États qui ont légalisé le cannabis, y compris récréatif. Et ça fait plus de 20% de la population maintenant, quand même. On a remarqué que, parce que la grande question c'était cannabis, alcool, substitution ou complémentarité, est-ce que c'est l'un ou l'autre ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Et ben a priori ça serait l'un ou l'autre, l'alcool a chuté de 15%. Voilà. Bref, deux trois études là-dessus.
Une étude seulement.
Une étude là-dessus. Mais deux articles par contre.
Deux articles.
Voilà, puis aussi il y a Le Monde qui travaille sur la Californie où des milliers d'amnisties liées à la marijuana vont être...
Parle pas comme dans South Park, s'il te plaît, de la version française. C'est assez ringard quand même, franchement, j'aurais pas dire, mais marijuana... Ouais, c'est un peu mieux quand même. Bon bref, excuse.
Des milliers d'amnisties donc sont prononcées, ils allègent les casiers judiciaires, voilà.
Ça c'est une sacrément bonne nouvelle. Voilà, ça chapeau là.
Avec
là,
rétroactivité, rétroaction, etc. Ouais. Bref, un truc pas mal.
Unique au monde pour l'instant.
Voilà, sinon on a aussi Constantin, je sais pas pourquoi tu l'as mis.
Parce qu'il dit tellement d'horreur qu'on peut pas laisser quelqu'un dire des choses comme ça sans commenter et répliquer.
D'accord.
C'est notre travail.
Je te laisserai répliquer.
Ça ne peut pas rester sans contradiction. Pas possible, on n'a pas le droit de... Tu vois, les trucs qui sortent...
Voilà, sinon il y a les Inrocks qui se posent la question, que se passe-t-il quand la police trouve votre numéro dans le carnet d'un dealer et qu'elle appelle... Dans le répertoire téléphonique du dealer. Voilà, sinon on reviendra sur la Californie avec le mirage d'herbe dans le désert... avec tout le...
Ça fait rêver.
Ce qui fait rêver, le cannabis business, le cannabis tourisme, tout ça. On verra. Et puis on finira sans doute par Mediapart, un article assez intéressant sur... c'est toujours l'enquête sur le cannabis thérapeutique. Où en est-on exactement aujourd'hui, voilà.
Voilà, avec...
On verra, on
approfondira. C'est l'interview, en fait, surtout d'un psychiatre qui s'appelle Nicolas Autier. Et qui est un bisounours, et qui nous endort, en fait. Voilà.
On verra ça, parce que ça, c'est pareil. On apprendra un petit peu plus sur les ATU, mais bon, on comprend pareil, un petit peu. Et puis, on finira les choses. Vous avez peut-être entendu ça, mais on va intégrer les drogues, et en tout cas le marché des drogues, dans le PIB. Ils ont refusé d'intégrer le marché des prostituées, parce que là, c'est pas bien. Mais les drogues...
elles ont été intégrées également.
Ah non, je crois pas, justement, d'après ce que disait l'article.
Ah.
Mais bon, on reviendra peut-être là-dessus. En tout cas, bon, c'est bien, c'est comme ça. D'un seul coup, Macron va prendre 1% de plus, voire 1,5% de PIB. C'est une bonne croissance, intéressante, sans rien faire. Ouais. Voilà un petit peu pour ce sommaire, donc pas mal de petites choses diverses et variées. On attaque...
Ah oui, d'accord, effectivement. Bon bref, oui, on va continuer. On va attaquer effectivement par cet élu de la Creuse, Éric Correa, qui est en fait le président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, donc dans la Creuse. Et ce monsieur Correa a en fait écrit au préfet de sa région, qui est, je pense, la région centre, pour lui demander de faire donc de la Creuse un département pilote dans la production de cannabis à visée thérapeutique. Alors là, là pour le coup, c'est vraiment unique en France, en tout cas pour le moment. Alors, ce monsieur Correa, qui est donc président de la communauté d'agglomération du Grand Reggae, du Grand Guéret, pardon, pas du Grand Reggae, est également conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, il reconnaît, ce monsieur Correa, que ce, bah, la question du cannabis est notamment. Alors, c'est que sur le médical, hein, thérapeutique. Alors, il reconnaît que c'est un, quelque chose de tabou, même pour le. Pour l'aspect thérapeutique, il faut savoir quand même que ce monsieur, il connaît un peu la santé, il est infirmier anesthésiste, il travaille toujours en tant qu'infirmier anesthésiste. Voilà. Et il dit comme ça, des publications médicales le prouvent, le cannabis est efficace pour soulager des patients qui souffrent de pathologies chroniques, et quand on prend du cannabis thérapeutique, eh bien on prend moins de médicaments. Voilà. Il y voit également un intérêt économique. Il pense bien sûr au plan de revitalisation de la Creuse, et ça pourrait être une mesure intéressante dans ce cadre-là. Il pourrait effectivement, lui, de son point de vue, on n'a qu'à faire une dérogation, une demande dérogatoire, et ça pourrait marcher. Alors lui, il dit, voilà, mais c'est attention uniquement dans notre département. Il prend l'exemple du Colorado, hein, qui a utilisé le cannabis à des fins thérapeutiques, mais aussi récréatives. Et ça, c'est pas dit dans l'article. Peut-être qu'il l'a fait exprès, ou peut-être qu'il le sait pas, je sais pas. Enfin bon. Alors, et c'est là où il se trompe, hein, parce que il parle du cannabis au Colorado à des fins thérapeutiques, et il dit, et il dit comme ça, cet État américain qui était déficitaire redistribue aujourd'hui de l'argent à la population. Oui, monsieur Correa, mais tout ça, cet c'est argent, c'est dans le cadre du récréatif et pas du thérapeutique. Hein.
Et puis c'est le Nevada en plus.
Non, non, au Colorado aussi, ils ont reversé de l'argent parce qu'il y avait trop, il y avait un trop perçu de taxes.
Ah oui, oui, du Colorado. Oui,
ouais, du Colorado. Pas, ouais.
J'ai rien dit.
Mais bon,
ça.
Dans le Nevada, dans un an, c'est la même chose. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Alors après, bon, par contre, il n'est pas. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est le journaliste qui a écrit l'article. Qui s'en mêle les pinceaux, si c'est M. Correa. Enfin, en tout cas, M. Correa, voilà, je lui laisse le bénéfice du doute parce qu'il cite quand même Hamon, qui était pour la légalisation du cannabis, et lui, il est plutôt favorable à la légalisation du cannabis, M. Correa. Donc, bon, peut-être une erreur du journaliste, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, il rajoute comme ça, il rajoute. Ça pourrait aussi régler des problèmes d'incivilité, de criminalité. Hein. Combien de morts en France liés au trafic? Combien de tribunaux engorgés? Voilà, donc, bon. Et l'article de francebleu.fr se termine comme ceci. Le président de la communauté d'agglomération a donc déposé sa proposition sur le bureau du préfet de la Creuse. Pour le moment, ce dernier n'a pas donné suite. Et je doute qu'il donne une suite favorable. Pour l'instant, je pense que c'est pas la peine, quoi. Mais bon, ça va faire son chemin. Hein. Voilà, pour la petite bonne nouvelle. En tout cas, voilà, nous, on salue quand même le courage de cet élu. Parce que je vous assure qu'en France, aujourd'hui, ce sujet du cannabis, c'est extrêmement compliqué. Bon, on le dit depuis très longtemps, hein, on en parle souvent. Mais travailler avec des politiciens sur la question, en tout cas là, voilà, dans une démarche comme celle de M. Correa, c'est rarissime et voilà, ça mérite d'être souligné et d'être... D'être affiché même, d'être voilà, soutenu.
Voilà, si tu veux qu'on on revienne une toute petite seconde, parce que si, je pense qu'on ne reviendra pas dessus sur l'INSEE, parce que je trouve que justement c'est bien là le grand écart de nos politiques. Hein. Ils font les effraies, ils ne veulent pas légaliser le cannabis, mais ils veulent bien le prendre en compte. Dans le calcul du
PIB
intérieur.
Ouais, c'est tout récent quand même. Hein. C'est très récent.
Ça va entraîner une légère hausse. Quoi. Voilà, le PIB va prendre un point et demi, comme ça, hop, discrètement. Et les gens qui regarderont ça sans savoir le mettront sur les bienfaits de la politique macroniste. Alors que voilà, ça n'en a rien à voir.
Et donc oui, excuse-moi, je reprends ce que tu disais au niveau de la prostitution. Oui, la France ne l'intègre pas. Voilà. C'est pas le cas de tous des autres pays qui sont un peu moins bornés sur la question.
On peut dire bon,
ouais. Et en tout cas, ils entendent quand même que le travail sexuel puisse s'effectuer de manière volontaire et sans contrainte. Mais en France, c'est non. En France, on n'est absolument pas dans cet état d'esprit. Et je vous assure que je suis bien placé pour le savoir. Voilà, parce que je travaille moi-même dans une structure d'aide aux personnes exerçant la prostitution. Une structure de santé, et on se bat pour les droits des travailleurs, travailleuses du sexe, et je vous assure que c'est ultra compliqué en France. Et parfois, quand elles sont contraintes et victimes forcées, on se dirait, bah, a priori, là, tout est fait pour qu'on puisse aider ces gens. Bah non, même pas. Et donc, bon, c'est encore un autre sujet tabou, compliqué, où là, il y a beaucoup de... Voilà, beaucoup de freins, de barrières morales. Et je vous le raconte même pas quand il y a prostitution et usage de drogue. Alors là, c'est encore autre chose. Bon, on va écouter un peu de musique et puis...
Et puis on revient sur notre sommaire et sur les États-Unis et tout ça.
Et tout ça. Allez, à tout de suite.
Écoutez, Sensimilia, forcément.
Oui.
C'était Histoire de Ganja. C'était le titre, je ne savais plus. D'accord.
Bon, alors, aujourd'hui, c'est un peu une émission, je dirais, un peu spéciale outre-Atlantique, États-Unis, hein, parce qu'on va quand même beaucoup parler de cela, enfin, en tout cas, de cet endroit géographique sur la planète. Ah oui, bah si, il y a quand même. Peut-être qu'avant de partir en Californie, si tu n'y vois pas d'inconvénient, on peut peut-être s'intéresser à l'interview du docteur Constantin dans le Figaro.
Ah, vas-y.
Voilà,
fais-toi-le.
Je le fais, et puis voilà. Donc bon, on va pas forcément y passer deux heures. Hein, je n'arrive même plus à le retrouver. Où il est passé. Ah, il est là. Alors, Jean Constantin, qui en plus répond à une interview, pas dans n'importe quel journal. Hein. Bon, ça aurait pu être Valeurs Actuelles. Non, c'est le Figaro. Ah, donc bon, c'est pas mal non plus. Professeur Jean Constantin, il est vraiment impayable. Quand vous lisez l'article, on dirait que c'est quelqu'un qui a une grande expérience en pharmacologie, sur le cannabis et tout ça. Alors qu'en fait, voilà, en fait non, hein, il faut quand même le savoir. En plus, bon, on a déjà parlé dans cette émission, il a été pris en flagrant délit de bêtise à propos du Sativex. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un article un jour, une interview de Constantin dans Atlantico. Où il disait qu'il fallait surtout pas donner du Sativex, que ça pouvait être un produit dangereux, qui pouvait provoquer également des hallucinations à cause du THC, blablabla. Et en plus, il nous disait que c'était un spray nasal. Voilà. Alors, en fait, pas du tout, hein, le Sativex, qu'on trouve toujours pas en pharmacie, hein, d'ailleurs. Mais bon, le Sativex, c'est un spray sublingual. Voilà. Donc, absolument pas des gouttes à se mettre dans le nez, hein, monsieur Constantin. Mais bon, pour lui, non, ça ne le choque pas. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui raconte beaucoup de bêtises, et c'est pour ça que je voulais quand même traiter cet article, parce que il dit des choses qui font flipper, hein. Il faut quand même le dire, hein. Constantin, c'est un peu le docteur Naas des années 2000-2010. C'était qui Naas? Ah, c'était le conseiller de drogue de Chirac quand il était maire de Paris dans les années 80. Et Naas, comme Constantin, disait beaucoup d'énormité sur le cannabis, hein. Aujourd'hui on pourrait plus tenir ses propos, hein. Naas disait à l'époque que les gens qui fumaient du cannabis pouvaient donner des naissances à des enfants avec deux têtes, par exemple, ou qui pouvaient être concernés par une réduction des testicules, par exemple, où les hommes voyaient leur appareil reproductif se réduire à quelques millimètres. Voilà. Donc voilà un peu ce que disait Naas. Bon, alors, aujourd'hui, Constantin ne va pas si loin dans les énormités, mais il en dit quand même pas mal. Alors bon, on lui pose la question, est-ce qu'il est d'accord ou pas pour cette histoire de contraventionnalisation de l'usage? Alors lui, il est pas d'accord. Il trouve que... Alors, il est pas d'accord pas parce que ça ne va rien faire. Il dit que c'est pas assez dur, en fait, comme peine. En fait, lui, il préconise plusieurs peines, plusieurs amendes. Il propose aussi la création d'un fichier que les policiers pourraient consulter pour voir s'ils ont déjà mis une amende à quelqu'un en vue de lui en mettre une deuxième plus forte que la précédente. Après, il n'est pas pour la prison. Il dit que ça sert à rien et que ça...
Comment on l'échappe mal.
Il dit que c'est un endroit où on va plutôt apprendre à se droguer et à fumer du cannabis. Là-dessus, il a raison. Voilà. Mais il y a tellement d'autres choses pour lesquelles il dit des bêtises. Alors... Pourquoi dit-il qu'il ne faut pas mettre de contravention, ou pourquoi il ne faut surtout pas légaliser, dépénaliser? Il dit que lui, voilà, c'est la contravention, c'est donner un mauvais signal et c'est plutôt du laxisme pour lui. Alors, où est-ce que j'ai retenu voilà.
Par contre, il rappelle quand même que les drogues légales,
tout
ça fait beaucoup de morts, hein, 79 000 morts pour la cigarette, 49 000 morts, voilà, pour l'alcool.
Mais il dit que si on légalise ou si on assouplit les lois pour le cannabis, ça va faire pareil. C'est-à-dire que il dit, regardez les résultats par rapport aux drogues licites. Si on légalise le cannabis, eh ben c'est voilà ce qui va arriver dans 20 ou 30 ans, quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Enfin, je vois pas où le cannabis pourrait tuer 79 000 personnes, quoi. C'est n'importe quoi. Et il dit, voilà, c'est vers ces ordres de grandeur que nous nous dirigeons si nous faisons du cannabis une drogue licite comme une autre. N'importe quoi. Enfin, il délire ce gars complètement.
Là, il délire totalement.
C'est vraiment hallucinant.
On,
quoi.
On a des morts directes par l'alcool, on n'en a pas de morts directes par le cannabis.
Non. Et puis, voilà, le cannabis...
Pas d'overdose à proprement non. parler.
Et puis, il n'y en a jamais eu dans l'histoire d'humanité. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Voilà. Nous ne pouvons pas nous le permettre. La fermeté contre la consommation de drogue se présente aujourd'hui à nous comme un nouvel impératif catégorique. Donc, quelles mesures vous proposeriez ? Donc, voilà, comme je vous ai dit, dans un premier temps, une contravention au moins de quatrième classe, c'est-à-dire 135 €. Donc, le fichier des contrevenants qui doit être créé pour permettre à l'officier de police judiciaire qui interpelle un délinquant de savoir immédiatement combien de fois il a été contrôlé et de multiplier le montant de l'amende d'autant. Au bout du troisième contrôle, comme manifestement l'intéressé est incapable de sortir de l'addiction, il se verrait...
Tu payes 3 fois 135 € déjà, ouais. Donc 415.
Voilà. Et en cas de nouvelle récidive, voilà, il y aurait des stages d'information
à tes frais,
voilà. Et il y aurait un contrôle d'urine également, blablabla, blablabla. Bla, bla. Bon, puis en plus, il est pas cohérent. Il raconte des trucs qui sont pas cohérents.
Donc, il prend l'exemple de la Suède. Alors là, je suis un tout petit peu en mal de le contredire. Bon, la seule chose qu'il dit, c'est que il y a beaucoup plus de prévention et donc ça marche. Ah, ça, c'est sûr qu'il faut de la prévention. Il faut de la prévention contre l'alcool, contre la cigarette, contre les mauvaises manières, contre les gestes homophobes, les gestes sexistes, etc., etc. Ça, c'est vrai qu'il y a du travail à faire.
Non, puis c'est un peu. T'as fini ?
Mais bon. À part ça, pour rester sur la Suède, donc beaucoup plus de prévention. Donc ça marche. Ça, c'est sûr. En revanche,
oui, il y a beaucoup plus de prévention. La Suède est l'un des pays d'Europe occidentale les plus en retard en matière de réduction des risques par rapport à l'usage de l'héroïne. Ils sont à la ramasse. Ils ont un taux d'infection et de diffusion du VIH qui est record.
Oui, ils sont très en retard.
Ça, M. Constantin, il n'en sait rien, visiblement.
C'est l'autre pays qui a des droits, des lois très dures sur le cannabis aussi.
Oui et non. Je suis allé une fois en Suède dans ma vie. Hein, je ne suis pas allé beaucoup de fois, je ne peux pas prétendre connaître à fond la société suédoise. J'ai quand même rencontré des gens là-bas qui étaient des amateurs de cannabis. Ils m'ont dit, bon, c'est rarissime que la police arrête des jeunes dans la rue parce qu'ils fument du cannabis. Voilà, il faut arrêter aussi, quoi. Donc Constantin, bon, encore une fois, il est à la ramasse là-dessus. Ensuite, j'ai pouffé de rire. Voilà. Dans les collèges où j'ai régulièrement l'occasion d'intervenir sur ce sujet, je demande aux jeunes qui ne consomment pas de stupéfiants de m'écrire anonymement la raison pour laquelle ils ne consomment pas. Est-ce que c'est parce que c'est dangereux ou bien parce que c'est illégal ? Et là, il nous dit 60% d'entre eux affirment ne pas se droguer parce que la loi l'interdit. Non mais ici, il n'a pas compris, Monsieur Constantin, que dans le contexte dans lequel on est, ces jeunes ne vont certainement pas lui dire qu'ils fument du cannabis. Faut qu'il retourne, je sais pas où, mais il est à la rue, quoi. Alors, il nous dit qu'il y a du travail à faire sur l'information quant au risque. Et ensuite, cela veut dire que les jeunes ne sont pas si transgressifs qu'on me le dit. Lapin de 6 semaines, Jean Constantin. Lapin de 6 semaines. Et il nous dit, tant qu'il existe un interdit, nous évitons à certains de nos enfants de sombrer dans cette addiction. Lapin de 3 semaines, même. C'est affligeant. C'est affligeant. Et il nous dit que si on lutte vraiment contre le cannabis, on va gagner des places dans le classement PISA. Vous savez, c'est le classement au niveau des au niveau de l'éducation et de la scolarisation, et que la France est tombée bien bas, et pas parce qu'il y a du cannabis, Monsieur Constantin. Parce que on n'a pas pris les bonnes décisions en matière d'instruction et d'éducation au niveau de l'éducation nationale. Bon, mais ça, il en parle pas, bien sûr. Et il nous dit, il est pensif, quoi. Ceci est incompatible avec l'apprentissage scolaire. On est d'accord avec lui là-dessus. Hein. Sauf que il nous dit après, voilà, c'est que le cannabis touche en priorité des jeunes au moment de leur éducation. Oui, c'est le problème de la prohibition, Monsieur Jean Constantin. Mais vous êtes d'une mauvaise foi absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Voilà, alors bien sûr, troubles de l'anxiété qui sont à mettre directement en corrélation avec le taux de suicide, principalement chez les jeunes. ainsi que les troubles du comportement et même des formes de schizophrénie. Voilà, il mélange tout. Schizophrénie, troubles du comportement, anxiété,
tous les problèmes de la
taux de suicide
sont dus
au cannabis.
Voilà. C'est simple pour M. Constantin.
On ne peut occulter le problème ou le minimiser.
Tous les problèmes de la jeunesse, c'est dû au cannabis pour M. Constantin.
Voilà.
Au moins, c'est simple.
Et donc, selon lui, hein, je vais finir, la dépénalisation serait un leurre, parce qu'avec 200 000 dealers dans nos rues, que croyez-vous qu'il se passera si nous mettons en place un réseau de distribution organisé, qu'ils vont se mettre au jour, du jour au lendemain à vendre du muguet ou des fraises Tagada? Soyons sérieux un instant. Ils vendront d'autres drogues plus nocives encore. Voilà tout. Et il ne sait pas, M. Constantin, non plus, que de l'autre côté de l'Atlantique, ces jeunes ou ces gens qui vendent du cannabis clandestinement, eh bien, il suffit de les intégrer dans un système de commerce légal et légitime pour que, justement, ces gens n'aillent pas vendre d'autres drogues. Et les gens qui aiment le cannabis n'aiment pas forcément d'autres substances comme l'héroïne ou il y en a qui aiment, hein, mais pas tous. Donc, voilà, il est vraiment complètement à la ramasse. Et là, il est pris en flagrant délit de théorie de l'escalade.
Et le plus croquignolesque, quand même, c'est la conclusion qu'il a. C'est vraiment le lapin de trois jours. Et en plus, elle commence par une grosse connerie, c'est l'urgence est là. Et donc, l'urgence est là, oui, c'est l'urgence qui est due à la prohibition. L'urgence est là, il faut sortir de la prohibition, M. Constantin.
Non, mais dis ce qu'il dit.
Et je vais dire ce qu'il dit. Les jeunes découvrent la drogue entre 12 et 15 ans pour la plupart, et ceux qui deviennent consommateurs réguliers.
Pour la plupart de ceux qui deviennent consommateurs réguliers.
Le cannabis, plutôt l'essayer, c'est plus vite l'adopter et plus rapidement en subir les conséquences pour la santé.
J'ai
en tête les paroles de cette chanson d'Yves Duteil, prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. C'est le défi que nous devons relever et nous n'avons pas le choix.
Voilà, donc si vous avez des enfants et vous souhaitez que Jean Constantin les prenne par la main, eh ben, à vos risques et périls, nous n'avons pas son numéro de téléphone, malheureusement, mais moi je serais vous, je me méfierais d'un vieux monsieur qui zozote et qui raconte n'importe quoi. Je ne lui laisserai pas mon enfant. Voilà, pour l'interview de M. Constantin au Figaro, que si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver facilement sur Internet. lefigaro.fr, consommation de cannabis, la police doit avoir accès à un fichier des contrevenants. Voilà, interview de donc Jean Constantin dans le Figaro le 30 janvier dernier. Voilà, allez, maintenant on va aux États-Unis.
Voilà,
parler de choses intéressantes avec des gens.
Les vols qui ont chuté de 15% dans les États américains où le cannabis est légal. Donc ça, c'est donc dans Slate.fr.
Non, il y a un article de Slate.fr et un article dans Rollingstone.fr.
Voilà, donc ça, c'est Léa Polverini qui a repéré ça. Voilà, donc,
dans Slate, oui.
Dans Slate. Donc, d'après les chercheurs, la consommation de marijuana ne serait pas complémentaire de celle d'alcool, mais au contraire substituable. Une étude conjointement par les chercheurs américains et péruviens a récemment avancé que la réduction de la consommation d'alcool observée aux États-Unis serait directement liée à l'égalisation dans plusieurs États de l'usage médical de la marijuana. Les scientifiques entendaient déterminer s'il existait chez les consommateurs un lien de substitution ou de complémentarité entre l'alcool et le cannabis et penchent désormais pour le premier. Voilà, donc c'est un signe en plus qui serait pour eux favorable à la légalisation du cannabis, puisque, a priori, le cannabis est plutôt moins dangereux que l'alcool. Ils expliquent un petit peu comment ils ont fait toutes leurs études hein, sur le nombre de commerces, 90 000 commerces d'alcool entre 2006 et 2015. Comparé sur les statistiques de vente entre les États, etc. Ils ont fait des statistiques.
Oui, entre les États qui ont adopté une autre législation et ceux qui sont restés sur une législation prohibitive.
Voilà.
Et en considérant les différences, voilà, avant, après, au sein d'un même État, ils ont aussi utilisé d'autres données, hein, bien sûr, comme l'âge, l'appartenance ethnique, la situation financière des clients. Voilà.
Ils ont essayé de faire une étude un petit peu complète et exhaustive.
C'est intéressant. Ouais.
Voilà. Et donc, dans les États où la marijuana a été légalisée, les chercheurs ont constaté en près de 10 ans une baisse moyenne de 15% de la consommation d'alcool, de 13% pour la bière et de 16% pour le vin.
Et ils disent que ces résultats, ils s'expliqueraient parce qu'il y a par une clientèle quasiment identique entre consommateurs d'alcool et de cannabis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens qui seraient plutôt attirés par le cannabis, mais comme c'est interdit, qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui, bah ils boivent de l'alcool. Voilà. Et à partir du moment où le cannabis devient légal, ils se disent, ah ben non, mais là, maintenant que c'est légal, je vais plutôt aller consommer du cannabis.
Ou alors il va consommer un petit peu d'alcool ou un petit peu de cannabis.
Oui, alors là, justement, comme il parle de...
Les personnes sont substituables.
Voilà, justement. Comme il dit que c'est substituable, c'est justement... Parce qu'après, dans l'autre article, l'article des Rolling Stones, là, où c'est Thomas Mangin qui l'écrit, il minore un peu ses résultats par rapport aux jeunes, notamment. Hein. Où est-ce que j'ai lu ça ? Néanmoins, voilà, l'étude s'est largement focalisée sur l'usage médicinal du cannabis et fait fi de la consommation récréative. Erreur. Donc là, effectivement, il y a un biais et ça nécessite d'autres études. Hein. Donc ça fait fi de la consommation récréative. Or, ce type de consommation présent chez les jeunes est souvent couplé, selon d'autres études, à une consommation d'alcool également. Voilà. Bon. Encore une fois, voilà, quand il y a des études et tout, faut être prudent. En plus, bon, on a du recul, mais on n'a pas énormément de recul non plus. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres études qui viendront compléter ces résultats. Voilà, prochainement, parce que je pense qu'on peut faire confiance aux Américains, aux chercheurs, aux acteurs de la santé publique pour avoir plus de données et montrer plus de résultats. Voilà. En ce qui concerne l'alcool.
Voilà, toujours.
Et la baisse d'alcool, pardon.
Toujours aux États-Unis, donc c'est la Californie qui lance des milliers d'amnisties liées à la marijuana.
Alors ça.
Donc
ça,
après avoir
fort.
Légalisé le cannabis thérapeutique depuis longtemps et le cannabis récréatif récemment.
Oui, excuse-moi.
C'est-à-dire depuis 2 ans, comme Trump. Hein.
Depuis un an.
Oui, un peu plus d'un an.
Bah, ça vient d'être mis en application depuis le mois de janvier.
Oui. Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Elle rentre en application tout à fait depuis le début du mois de janvier. Donc là-bas, en plus de tout ça, ils vont réexaminer toutes les condamnations qu'il y a eu, toutes les infractions et condamnations pénales remontant à 1975, et ainsi que les 8000 condamnations et infractions vont ainsi être examinées par le tribunal californien. Et donc, surtout pour sortir les gens du casier judiciaire. Donc, bien plus que les politiques, voilà, le procureur Georges Gascon, qu'est-ce qu'il raconte ou commente-t-il ? Bien que les politiques liées à la drogue fassent un pas en arrière au niveau fédéral, San Francisco prend une fois de plus l'initiative de réparer les dégâts causés par la désastreuse guerre contre la drogue.
Dégâts causés par la désastreuse guerre contre la drogue, ça c'est fort.
Une condamnation pénale peut être une barrière à l'emploi, au logement ou à d'autres subventions. Donc c'est pour ça qu'ils veulent les faire supprimer des casiers judiciaires.
Je trouve ça formidable.
C'est formidable et c'est une...
Ça c'est une vraie avancée des droits humains, ça.
Voilà, c'est une justice réparative, comme il dit. D'autant plus que ça touche, comme on le dit souvent, beaucoup de noirs, d'hispaniques ou de pauvres, puisque souvent c'est des amendes qui sont des amendes sociales, comme on pourrait dire, ou racistes, ou ethniques, ou racistes.
Ouais, carrément racistes, ouais.
Et c'est souvent ce qu'on a vu et ce dont on a souvent entendu parler aux États-Unis sur... à l'application raciste de la loi sur les stupéfiants. Voilà. Et ce qu'on voit aussi d'ailleurs en France d'une certaine façon.
Confère le livre de Michel Alexander, The New Jim Crow, qui a été publié il y a au moins 6 ans déjà, et qui parle, qui démonte cela. Alors, il n'y a pas que en Californie, enfin notamment à San Francisco, que des grandes villes tentent d'effacer des casiers judiciaires ou d'annuler les condamnations pour les gens qui auraient pu être interpellés. Il y a d'autres villes en Californie qui font comme ça. Il y a également Los Angeles, Alors, Oakland, bon, c'est en face de San Francisco, alors Oakland s'y met aussi, mais plus au nord, et notamment dans l'Oregon, alors c'est même pas la Californie, mais Portland, par exemple, tente également de remédier à ces disparités, et comme tu disais, voilà, veulent mettre en place des mesures de justice réparatives. En donnant par exemple la priorité aux Afro-Américains ou Hispaniques dans l'attribution de licences de commercialisation. Moi je pense que M. Jean Constantin, on devrait l'envoyer en stage dans ces endroits. M. Jean Constantin, il apprendrait plein de choses, il arrêterait peut-être de dire des conneries, non ? S'il allait faire un petit stage en Californie ou dans l'Oregon... Il verrait justement que ces gens qui ont été poursuivis et condamnés pour trafic ou usage, qui peut-être sont encore de la partie, à qui on va tenter de donner des licences de commercialisation pour qu'ils se mettent en règle dans un commerce licite, bien en règle. Voilà. Ça lui ferait du bien, M. Joe Constantin. Il apprendrait plein de choses. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre
Ouais, sur la Californie, j'irais bien juste faire un petit tour dans le désert, là, dans le mirage d'herbe dans le désert.
Ah, raconte-nous un petit peu.
Qui est paru dans Libération, page 7.
Un bel article.
Ah oui, sur la bourgade de Nipton.
La bourgade de Nipton, c'est ça?
Voilà, non-loi de Las Vegas n'est pour l'heure qu'une poignée de bâtiments et de mobil-homes au milieu des cactus. Mais quelques investisseurs y voient le futur Eldorado de touristes voulant profiter de la légalisation du cannabis dans l'État. Donc voilà, les gens veulent y faire fortune. Donc c'est un endroit qui est un peu perdu, donc qui a eu pas mal de propriétaires. Hein. Beaucoup de gens ont essayé d'y faire fortune, et puis là, bah, c'est un nouveau patron, hein, c'est le septième, se nomme Stéphane Schering, il est âgé de 52 ans, il est le project manager chargé de faire de l'endroit l'avant-garde d'une révolution verte dans tous les sens du terme. Voilà, Nipton, barbe de 3 jours, casquette vissée sur le crâne et t-shirt ample, Schering lance l'opération séduction, Nipton doit vous choisir, pas le contraire, les gens d'ici partagent une communauté de destin. Son idée est d'attirer une clientèle touristique en quête d'authenticité à laquelle il compte vendre une expérience, la possibilité de consommer d'une herbe en toute sécurité et sous toutes ses formes, sous les voûtes étoilées du Mojave, tout en respectant l'environnement. Le bourg est censé bientôt recycler ses déchets, produire son énergie et ses aliments bio. Les ajouts de Nipton sont, il est une porte d'entrée sur le parc national de la Mojave, destination prisée des randonneurs. Voilà, donc...
T'as raté une phrase. Alors, les atouts de Nipton sont, il est vrai, nombreux. Hein. C'est une ville qui est située à une heure de route à peine des casinos de Las Vegas. Et donc, ce patelin constitue aussi, je reprends ta phrase, une porte d'entrée vers le parc national du Mojave, destination prisée des randonneurs. Mais il y a aussi une épicerie à l'ancienne, un hôtel d'origine et un jardin de cactus qui aurait pu servir de décor à un western de Sergio Leone. Ça a l'air chouette en plus. Hein.
Ouais. Allez, on va aller au loin de tout ce que j'ai souligné. Au loin, la plus grande centrale solaire thermodynamique du monde. 14 km² de panneaux posés au sol irradient l'horizon. Quant aux trains de marchandises de la Union Pacifique, qui font régulièrement trembler les murs, ils accentuent cette impression de folklore du Far West. À sa manière, le nouveau Nipton est un concentré d'Amérique, un nouveau terre d'opportunité, American Green. En plus de ses 5 millions de dollars lâchés pour acquérir le village, il promet d'y investir au moins 2 millions.
Voilà, donc c'est, en fait, c'est au sujet de cette grosse boîte, hein, American Green, qui est venu tout simplement acheter le village. Donc ils veulent investir 2 millions de dollars. Une entreprise en fait qui est essentiellement financée par des petits actionnaires, donc une petite multinationale, peut-on dire, je ne sais pas si... Hein, dont l'action se monnaie actuellement au prix de 0,0015$. On nous parle de Penny Stock Company, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire vraiment une toute petite entreprise boursière, quoi. Et cette petite entreprise survit uniquement grâce aux investisseurs, aux investissements des particuliers, qui dépensent souvent toutes leurs économies dans l'espoir de faire fortune un jour. Et donc American Green, qui a été créé en 2009, n'a réalisé, tenez-vous bien, que 40 000 dollars de chiffre d'affaires en 2017. Donc voilà, ils ont envie de faire fortune, tous ces gens, dans cette compagnie, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils espèrent, voilà, ils parient en fait sur l'explosion du marché du cannabis récréatif, et il y a des chances qu'ils ne se trompent pas. Hein, il y avait encore hier soir une émission qui a déjà été diffusée, hein, sur la 5e hier soir, qui avait d'ailleurs un titre assez proche de l'article. Hein. C'était quoi je me rappelle plus exactement, le mirage vert ou l'herbe verte, je sais pas quoi. Et donc il y avait quelqu'un qui s'exprimait et qui disait que chaque décennie il y avait une activité économique et commerciale qui était le truc qui pouvait faire exploser la croissance ou permettre à des gens de devenir très riches. Et il disait voilà, dans cette décennie là c'est la marijuana quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait lire d'autre? American Green rêve également de lancer une eau de source parfumée au cannabidiol. Mais également des ateliers de yoga cannabis, un jardin éducatif sur la marijuana, voire un restaurant déclinant l'herbe sous toutes ses formes comestibles. Mais pour l'instant, Nipton a surtout bénéficié d'un ravalement de façade. Les espaces verts ont été nettoyés, un coup de peinture a été donné au bâtiment, mais rien de plus marquant. Et Shirin s'agace quand on lui demande ce qui coince. Elle dit « Tout le monde veut savoir pourquoi on ne fait pas encore pousser de plants de cannabis, mais parce que ça ne sert à rien avec le soleil qu'on a ici. Si on avait voulu, on aurait investi en Californie du Nord, la Mecque pour les cultivateurs d'herbes. Rien ne nous empêche de nous développer. Il y a 6 mois, il n'y avait pas tous ces travaux dans le village. On n'est pas là pour détruire la société américaine ou être paresseux. » Voilà, donc je repense à ce documentaire d'hier soir, en fait, ce qu'ils sont en train de monter, ce qu'ils montraient, c'est qu'il y a des tas de petites entreprises, ou plus ou moins grosses, qui cherchent des endroits un peu désolés aux États-Unis, et ça ne manque pas, pour investir et faire pousser du cannabis. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Voilà, bon, qu'est-ce que tu voulais rajouter ? Il raconte aussi dans cet article il rappelle que chaque ville, chaque comté décide de des modalités précises du commerce de la marijuana. Donc voilà, est-ce que celui de San Bernardino dont dépend Nipton, ils ont donc pour l'instant délivré aucune licence. Donc c'est pas trop ce qu'ils vont faire par là-bas. Mais en tout cas, voilà, c'est une expérience qui est raconté.
Voilà, autre chose.
En tout cas, le rêve de Magical Nipton miroite plus que jamais. Voilà comment se conclut voilà. Ça. Je te propose une petite pause musicale.
Allez, pause.
Hey you, I tell ya, leave your devilish behavior. I go on like fool. Get a youth come cool. I go on like fool. I go on like them never got no brain. Get a youth come cool. Them go on like fool. I go on like them never got no brain. Get a youth come cool. I go on like fool. I go on like them never got no brain. Get a youth come cool. I go on like fool. I go on like them, never got no brain. And I respect to them fathers, and I listen to them mothers. I go on like them, never got no brain. And I love among brothers, and I respect them sisters. I go on like them, never got no soul. Me tell them, say freeze, and think a while. Me tell them, say freeze, and think a while. Know yourself in the puzzle. Where you standing in the struggle? Tell them to freeze and think a while. What make this situation now go get better? What making them get better? Who are making things them get hotter? Who tell the youth to come and shut up? Me
tell them to freeze and think a while.
Posing as spiritual, living in limbo, missing the absurdity in this unreality. Casualties of banality. Rigid lines, greed's blind eye to a mass suicide. All the while, a private eye inside, still searching for the real. Them. Posing as spiritual, living in limbo, missing the absurdity in this unreality. Casualties of banality. Casualties of banality.
Them a go on like them never got no brain. Them a go on like them never got no soul.
Posing as spiritual.
Them a go on like them never got no brain.
Living in limbo.
Them a go on like them never got no soul.
Posing as spiritual.
And them a go on like them never got no heart.
Living in limbo.
Ooh, ooh.
Ben voilà. Oh, un, deux, voilà. C'était eux, hein, forcément.
Ézéchiel avec Sœur Jean. Bon, allez, Jacques, on n'a pas, le temps. Allez, dépêchons.
Zenzil avec 5 minutes. Know Yourself.
Voilà. Donc, alors, il nous reste 10 minutes environ. Pour terminer, donc il y a deux articles dont on vous a pas parlé qui sont très intéressants. Il y en avait un qui vient des Un Rock. Que se passe-t-il quand la police trouve votre numéro dans le répertoire d'un dealer? Et un autre article très intéressant dans Mediapart du 1er février, une interview du psychiatre Nicolas Autier par Louise Fessard sur le cannabis thérapeutique, que j'ai trouvé assez intéressant et assez révélateur. Je dirais de la naïveté de certains justement sur ces questions-là. En l'occurrence, ce psychiatre pas tellement, je trouve, dans la réalité, quoi. C'est un peu dommage. Alors, moi, je propose qu'on s'intéresse plutôt à cet article sur le cannabis thérapeutique. Je pense qu'on peut très très vite dire le plus important en fait dans cet article des Un Rock là. Que ouais. Se passe-t-il quand la police trouve un numéro dans le répertoire d'un dealer?
Ouais, donc voilà. Bonjour Brigade des Stupéfiants de Val-de-Marne, nous avons besoin de vous entendre rapidement sur le cadre d'un dossier que nous traitons. Voilà, donc Julie donc découvre ce message et elle sait pas trop quoi faire, elle en parle avec sa copine, pareil, elle a eu le même message. Bon, bref, il décide d'appeler, et intimidation au téléphone.
Voilà, en fait, voilà, je pense qu'il faut aller droit au but.
Et les flics, donc le mieux déjà, n'essayez pas de rappeler, c'est le premier conseil.
Voilà, en fait.
S'ils veulent vraiment, ils vous reconvoquent.
En bonnet du forme.
En bonnet du forme.
Ils vous envoient un courrier, ils vous demandent de vous déplacer.
Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut y aller.
Mais quand c'est...
Voilà. Voilà, alors après, au téléphone, ils les font venir pour venir déposer, pour venir prendre. Ils expliquent jamais pourquoi c'est. Et puis, quand ils arrivent au commissariat, tout de suite, c'est la pression. Vous savez pourquoi vous êtes là.
Moi, je pense qu'il faut... Voilà,
pourquoi on vous a trouvé, vous savez que c'est grave, etc.
Il faut reprendre ce que dit le cirque qui a été interviewé et qui fait partie de cette interview dans cet article. Qu'est-ce qu'il dit le cirque? Il tend à présenter les choses de façon dramatique pour obliger à balancer. Voilà. En réalité, il ne possède pas grand-chose sur vous hein, pour avancer et tente systématiquement l'intimidation pour progresser. Voilà. Donc le risque, il faut quand même savoir qu'il est minime pour vous dans cette affaire. Si jamais, effectivement, on retrouve votre numéro dans le téléphone, dans le répertoire d'une personne qui est poursuivie pour trafic ou pour deal, ils n'ont pas grand-chose sur vous. Hein. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà. Même si le vendeur peut, par le biais de son avocat, avoir l'accès à l'identité de la personne qui a témoigné, il n'y a quasiment jamais de vengeance. La vente de stupéfiants est devenue un véritable business et les dealers le gèrent désormais comme tel. Et comme tout commerce, il faut éviter de faire peur aux clients. Pour les représailles façon napolitaine, on repassera. Voilà, donc du calme. De plus, il est possible que les autorités engagent des poursuites pour participation au commerce illicite en question en cas de refus total d'obtempérer. La consommation de stupéfiants demeure un délit et peut donc engendrer des poursuites. Voilà. Je pense que c'est important de dire ça. Qu'est-ce que dit le CIRC ? Dit autre chose plus loin. Je croyais qu'ils étaient. Ah oui, voilà. C'était avant. Ces méthodes sont dans la logique de ce que nous avons entendu lors des auditions des policiers par la récente commission parlementaire. Voilà. Ils souhaitent surtout garder le délit de consommation pour soi-disant remonter les filières en mettant la pression sur les usagers. Une pure fumisterie. Voilà. Alors ça c'est bon à savoir. S'ils vous appellent, ça veut dire qu'ils ont déjà arrêté la personne. En l'occurrence, si vous appelez pour remonter la filière, non.
Voilà. Oui, c'est pour le faire tomber lui.
Voilà, exactement.
Parce que là, c'est des gens qui livrent à domicile. Donc, ils ont chopé le mec, ils ont chopé son téléphone. Et ils ont appelé tout le monde pour choper des gens, pour avoir des preuves, pour pouvoir l'inculper.
Mais
dès le lendemain, d'ailleurs.
Tout à fait.
Parce que c'est de la comparution immédiate.
D'autre part, j'en profite pour tordre le cou à cette explication qui serait qu'on a besoin des consommateurs pour remonter la filière des dealers. C'est fou. C'est archi fou.
D'ailleurs, l'octrice le fait par le haut. Ils amènent la drogue. Exactement. Et ils regardent qui le vend.
Voilà. Quand on voit la proportion extrêmement faible de dealers ou de trafiquants à interpeller en France et à comparer à l'énorme proportion de consommateurs interpellés ou poursuivis, voilà, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, ils n'ont pas besoin des consommateurs pour remonter les filières de deal.
C'est
faux.
Ce n'est que du contrôle social.
Exactement. Voilà, donc du calme. En gros, pas de panique. Vous pouvez éventuellement appeler le CIRC si vous voulez être discuter avec quelqu'un et être rassuré. 06 11 53 10 07. 06 11 53 10 07. Voilà. Maintenant,
on arrive à l'article de Mediapart avec le médecin psychiatre Nicolas Autier, qui est le chef de service en pharmacologie médicale et de la douleur du CHU de Clermont-Ferrand. Il préside la commission des stupéfiants et psychotiques de l'Agence stupéfiants et psychotropes de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM. Voilà. Donc c'est elle qui délivre les avis sur les substances psychotropes, qu'elles soient légales ou non. Voilà, et elle est consultée pour le classement des nouveaux produits qu'ils apparaissent sur le marché.
Alors, ce monsieur Nicolas Autier, lui, il est favorable au développement en France de cannabinoïdes thérapeutiques sous forme de médicaments, comme par hasard. Et non sous forme de cannabis brut. Contrairement au choix fait en Allemagne qui a autorisé en janvier 2017 la vente sur ordonnance d'extraits de cannabis et de fleurs séchées dans ses pharmacies. Il estime, ce monsieur Nicolas Autier, qu'il serait très intéressant que les autorités sanitaires s'emparent de cette question des cannabinoïdes thérapeutiques pour définir une véritable politique d'usage thérapeutique cohérente, sécurisée et bienveillante. Il est gentil. Voilà. Moi, je trouve je disais Constantin, lapin de 6 semaines, mais lui, pas mal aussi, hein, j'ai trouvé.
Existe-t-il pour certaines pathologies un consensus scientifique sur l'efficacité de certains principes actifs du cannabis ? C'est la question de Mediapart.
Voilà, de Louise Fessard. Alors, il nous dit, les choses sont en train de se préciser. En termes de niveau de preuve suffisant, le cannabidiol, par exemple, a montré un intérêt dans l'épilepsie résistante de l'enfant, ainsi que dans la spasticité de la sclérose en plaques. Une demande d'autorisation de mise sur le marché a été déposée auprès de l'Agence européenne du médicament en décembre 2017 pour un médicament, l'Epidiolex, dont on a déjà parlé, effectivement, qui peut servir aux personnes qui sont concernées par des épilepsies particulièrement aiguës. Donc cet Epidiolex à base de cannabidiol dans l'épilepsie résistante des enfants. Voilà. Cette substance possède déjà une autorisation temporaire d'utilisation en France. Si le laboratoire l'obtient, ce serait le deuxième médicament à base d'extrait de cannabis qui disposerait en France d'une autorisation de mise sur le marché après le Sativex. Donc déjà par rapport à l'ATU, monsieur Autier, il y en a très peu en France des ATU, cher monsieur, et des gens qui souffrent et qui ne peuvent pas en avoir. Mais visiblement, lui, il n'a pas l'air de trouver ça, il n'a pas l'air de s'en inquiéter.
Que les ATU, lui, il délivre les ATU, c'est pas lui qui est responsable de la façon dont elles sont distribuées, même, et qu'elles soient distribuées.
Oui, mais du coup, il nous dit quand même qu'un autre médicament est disponible en ATU, donc il nous parle du Marinol, un produit qui est connu aux États-Unis depuis 20 ans, ne serait-ce que pour que, voilà. Hein. Donc il est utilisé dans le traitement de certaines douleurs chroniques résistantes et dans d'autres pays, dans la prise en charge des nausées, vomissements et perte de poids dans le cancer et l'infection par le VIH. Mais ce ne sont pas des traitements de première intention. Ils sont donc indiqués après échec des autres médicaments. Il existe ensuite beaucoup de pistes de recherche, notamment dans la douleur, mais avec un niveau de preuve encore insuffisant. Bien que l'on parle de plus en plus de médecine personnalisée, il faut tout de même que les substances actives proposées aux patients bénéficient d'une validation de leur balance bénéfice-risque.
Quel est le mécanisme des cannabinoïdes ?
Nous produisons nos propres endocannabinoïdes qui se fixent sur les mêmes récepteurs CB1 et CB2 que les substances actives du cannabis. Selon la localisation de ces récepteurs, leur activation peut avoir un rôle physiologique, toxique, voire potentiellement thérapeutique sur, par exemple, la prolifération des cellules, les systèmes respiratoires et cardiovasculaires, l'inflammation, le système immunitaire, le cerveau, plaisir, douleur, appétit, nausée. Les cannabinoïdes sont soit activateurs, soit inhibiteurs cellulaires selon les tissus concernés. Le cannabis, avec toutes les molécules qu'il compose, est lui considéré comme un dépresseur, qui ralentit le fonctionnement, du système nerveux central, donc du cerveau.
Pourquoi le cannabis médical est-il toujours interdit en France, alors que plus d'une trentaine de pays en Europe et en Amérique l'ont autorisé sous diverses formes ?
Ah, alors il est gentil, monsieur Autier. Le terme de cannabis, nous dit-il, peut être un frein au développement de son usage à visée médicale. Ce qui peut soigner, ce sont certaines molécules extraites du cannabis, des cannabinoïdes utilisés seuls ou en association et dont on va optimiser l'usage en réduisant notamment les risques liés soit au THC lui-même, soit au mode de consommation comme le joint. Il faudrait parler de cannabinoïdes thérapeutiques. Cela permettrait aussi de dissocier cet objectif médical du débat sur la dépénalisation, la légalisation de l'usage récréatif du cannabis. Le statut de stupéfiant du cannabis ne doit pas être un frein au développement des médicaments cannabinoïdes. Nous disposons bien de médicaments à base de morphine, qui est aussi une substance stupéfiante et pas moins à risque en cas de mauvais usage que le cannabis. Le véritable défi, nous dit-il, est de montrer scientifiquement l'intérêt de ces substances cannabinoïdes actives, de les extraire ou de savoir les synthétiser, et enfin de trouver un mode d'administration sans risque ou à moindre risque. La forme fumée à travers les joints est un non-sens d'un point de vue médical, nous dit-il. La vaporisation avec par exemple des cigarettes électroniques comme cela se fait déjà est une première avancée vers un moindre risque, mais cela n'est pas forcément adapté à des traitements de fond de maladies chroniques. Nous, on a envie de lui dire à monsieur Autier qu'on connaît quand même des gens. Voilà, le fait d'avoir fumé des joints, ça leur a quand même sauvé la vie, quoi. Voilà, là aussi, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop.
Il est pas mal sur le Sativex qui a obtenu la TU en 2014. Qui est destiné à certains patients de sclérose en plaques.
Juste après.
Toujours pas été commercialisé. Aucun accord n'a été trouvé sur le prix auquel il pourrait être remboursé. Les associations de patients atteints de sclérose en plaques, ainsi que le directeur de laboratoire espagnol chargé de sa commercialisation, évoquent une peur des autorités françaises.
Et il dit comme ça. Je ne peux pas répondre pour les autorités chargées de la fixation du prix. Mais il me semble que du côté de l'agence du médicament, tout a été fait pour qu'une autorisation de mise sur le marché soit possible et de façon rapide. Ils nous prennent vraiment pour des nuls.
Bref, en tout cas, tout ça est sur le site de Mediapart. Pour finir, on peut dire qu'il pose la question sur les patients, est-ce qu'ils utilisent du cannabis pour se soigner ? Donc il dit oui, certains de ses patients l'utilisent. Donc ça doit être du... Je ne sais pas comment il l'utilise, mais bon. Puisqu'il ne dit pas que, par quel médicament, donc ça doit être par de l'herbe, c'est un peu bizarre. Voilà, et puis sinon, il rappelle, toujours pareil, le CBD. En fait, là, on ne peut pas le vendre parce que ça devient un médicament. Mais comme c'est, tous les médicaments à base de cannabis sont interdits, on ne peut pas le faire, même s'il a, pas, même s'il a moins de 0,1% de THC. Il a un truc, une logique par l'absurde qui est assez délicate.
Bah, abordons-le justement, il nous reste une petite minute là. Tu parles du dernier paragraphe ?
Oui.
Oui, parce que voilà, il y a quand même la journaliste lui dit, mais enfin les produits comme certaines huiles de CBD contenant moins de 0,2% de THC sont-ils légaux en France ? Non, il n'existe pas de seuil en dessous duquel le cannabis serait légal. Le THC lui-même est interdit, c'est un stupéfiant. Ah bon ? Bon. La loi dispose que certaines plantes de cannabis sont autorisées uniquement à visée cosmétique, alimentaire ou vestimentaire parce qu'elles contiennent moins de 0,2% de THC. On ne peut utiliser que les fibres ou la graine. Si on fabrique un liquide contenant du CBD et du THC, cela devient illicite. Oui, ça on est bien d'accord. Et il rajoute, le CBD lui-même n'est pas interdit. Alors que juste avant, il disait que ça pouvait être... C'est pas clair hein, ce qu'il dit là, en termes THC-CBD, on mélange un peu les pinceaux. Il faut être sûr quand même, nous dit-il, qu'il y a 0% de THC dans votre liquide. Sauf s'il s'agit d'une préparation pharmaceutique et qu'une autorisation de mise sur le marché. Bon, c'est pas bien clair. Et vraiment, ce monsieur, on voit qu'il rencontre... très rarement des gens qui souffrent et qui se battent pour avoir du cannabis d'une manière ou d'une autre, voire même qui sont prêts parfois à être condamnés. Donc voilà, c'est pas avec des gens comme ça que la cause du cannabis thérapeutique va avancer en France, hein, malheureusement. Il faut être un peu plus au fait de ce qui se passe déjà à l'étranger et de la difficulté que peuvent avoir des gens malades qui souffrent pour se soigner. Voilà.
Non mais lui c'est le bon fonctionnaire, vous pouvez le faire mais il vous manque le bon papier
ouais.
Ça. Et si vous amenez ça il vous manque autre chose quoi.
Voilà, mais sauf que le bon papier on peut quasiment pas l'avoir et puis bon voilà, c'est comme tu dis Bon, eh bien, c'est la fin de Cannabis Circus lundi 5 février 2018, qui vous a été présenté une fois de plus par le CIRC, le collectif d'information de recherche cannabique, que vous pouvez joindre au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, au moins pour avoir nos coordonnées, et nous écrire un petit mail, éventuellement cirque-lyon@nautilogue.org. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur notre page Facebook du CIRC ou du CIRC Lyon. Et vous pouvez également devenir membre du cirque. Nous ne vivons que de l'aide de nos adhérents. Le cirque n'est pas subventionné, loin de là, et ne touche pas d'autre argent que celui des adhésions et de l'argent des produits récoltés en faisant quelques petits stands dans l'année. Voilà. Et comme on est au mois de février, et ben, il est encore temps de réadhérer ou d'adhérer, de devenir membre du cirque à 10 ou 20 euros, ça dépend, comme vous voulez. Voilà. Cannabis Circus, c'est fini. On vous se retrouve la semaine prochaine, lundi 12 février. Et maintenant, c'est Chasseur de Son. Allez, à toute la semaine prochaine. Au revoir.
Ciao.